Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Il y en a marre des journalistes de Mediapart ou autres qui sortent des affaires tous les 4 matins. Un journaliste, ça n'enquête pas, ça donne son avis, ça réagit à l'émotion, avec ses tripes.
Les Français veulent savoir. Ils veulent savoir qu'on n'a rien de plus intelligent à dire qu'eux.
C'est ça le vrai journalisme populaire.
Mediapart, t'es foutu, les concierges sont dans la rue. Mediapart, t'es foutu, les concierges sont dans la rue.
Eh bien, on n'est pas rendu hein, dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de fact-checking, de BFM, de chaînes parlementaires et même de BD. Pour une émission spéciale dans le cadre de la journée Changement d'air en politique. Nos invités sont Marie-Ève Malouine qui prendra ses fonctions à la tête de LCP le 8 juin prochain, Cédric Mathieu, initiateur du fact-checking en France en 2008 avec sa rubrique Désintox à Libération, et Hubert Huertas de Mediapart qui vient de signer un livre, L'effet BFM. On retrouvera aussi le questionnaire autoportrait de Manou, la suite de son questionnaire politique Nouvelle Génération, avec ce soir le maire UMP de Palaiseau, Grégoire de Lastéry. Émilie Chaudet.
Du fact-checking, vérification systématique du propos politique au fast-checking, course à l'info, une vue d'ensemble des évolutions ou d'une disparition de l'analyse journalistique en politique.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre sur le son du jour.
Nous pensons toujours, mes camarades et moi, nous avons connu à la fois le meilleur et le pire de l'homme. Finalement, nous avons une grande foi dans l'homme, parce que nous savons que d'abord, il y a des gens qu'on n'arrive pas à détruire. Il y en a qui restent des lumières à ce moment-là pour chacun de nous, quelles que soient par ailleurs leurs convictions ou leurs pensées.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et comme d'habitude, il ne date pas d'hier.
C'est une habitude chez moi, vous l'avez peut-être reconnu, la voix de Geneviève de Gaulle-Antonoz, nièce du général de Gaulle, résistante, qui a croisé le chemin de son amie Germaine Tillon, déportée avec elle à Ravensbrück. Toutes deux ont survécu à la guerre, poursuivent leur engagement par la suite de manière très différente. Geneviève de Gaulle-Antonoz en luttant contre la misère et notamment les bidonvilles. Elle a été pendant 30 ans la présidente d'ATD Quart-Monde. Germaine Tillon en poursuivant son travail ethnologue. Les corps de ces deux femmes, on l'a dit, sont entrés tout à l'heure au Panthéon. France Culture publie à cette occasion aux éditions Radio France, dans sa collection Les Grandes Heures de Radio France, deux à voix nue avec ces deux femmes, de grands entretiens donc avec elles, intitulés Les Femmes au Panthéon. Vous pouvez trouver les références de ce disque sur le site de l'émission.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré au film Much Loved du réalisateur marocain Nabil Ayouch. Un film qui raconte l'histoire de quatre jeunes femmes marocaines qui se prostituent. Présenté à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, le film suscite des réactions très violentes au Maroc où le gouvernement a tout bonnement décidé de le censurer.
Alors Nabil Ayouch, c'est un réalisateur qui s'est déjà attaqué à plusieurs problèmes parfois un peu tabou. Son dernier film, Les Cheveux de Dieu, qui date de 2013, parlait déjà de la radicalisation de certains jeunes. Ce film, Much Loved, eh bien, il y travaille depuis des années. Il y montre des scènes parfois très crues, mais il était loin de s'imaginer qu'il pourrait déclencher un tel scandale.
Je savais en tout cas que c'était un sujet sensible, même s'il a déjà été abordé dans le cinéma marocain à différentes reprises. Peut-être pas de manière aussi réaliste, mais je m'attendais pas à ce qu'il suscite une telle polémique. Donc peut-être un petit peu naïvement, je sais pas, j'ai présenté le projet à l'Avance-sur-Recette au Maroc, où il a été rejeté à deux reprises. Mais la commission étant complètement indépendante et libre de ses choix, j'ai évidemment pas contesté. Et quand j'ai demandé l'autorisation de tournage, elle m'a été accordée instantanément. J'ai pas eu besoin d'avoir l'autorisation de tournage pour me dire que ce film pouvait ou devait exister. C'est un sujet qui m'a passionné. Ce que ces filles m'ont dit m'a bouleversé. Et je pensais qu'il était important à travers ce film, de montrer cette réalité et d'une certaine manière, d'entendre ce qu'elle vivait, de montrer, de dire ce qu'elle vivait, ça me semblait fondamental.
Les autorités marocaines, en particulier le centre cinématographique marocain, connaissaient donc le scénario du film.
Oui, puisque donc on l'a compris, même si le film n'a pas eu de sous du Maroc, eh bien il a pu être tourné à Marrakech. Le film ensuite a été monté et ensuite montré au Festival de Cannes. La semaine dernière, justement, il y a eu des petits extraits du film qui ont été fournis. Au début, c'était censé être des extraits pour les journalistes, mais ils se sont très rapidement retrouvés sur Internet et là, la machine s'est complètement emballée.
Je crois que les choses ont commencé à s'emballer progressivement quand des extraits du film ont été mis de façon piratée sur YouTube, qui se sont retrouvés vus par des centaines de milliers. Il y en a même un qui a dépassé les 2 millions de vues. Et là, je me suis rendu compte que ces images provoquaient des réactions assez extrêmes. Pour beaucoup, c'était des avis extrêmement virulents. Et il y a eu 2 pages Facebook qui ont appelé à des menaces de mort pour les actrices, en tout cas l'actrice principale et moi-même. Ensuite, je m'attendais évidemment pas à ce qu'il soit interdit pour autant. Je m'attendais à ce que la procédure suive son cours, le film devant passer devant une commission, et que suite à ce visionnage, bon, j'ai une réponse de la commission. Mais la douche froide, ça a été lundi soir, quand j'ai lu un communiqué qui disait que le film ne passerait pas.
Car oui, ce lundi, les autorités marocaines décident d'interdire le film au Maroc.
Et dans des conditions absolument inédites, voire certainement illégales, puisque c'est le ministre de la Communication qui a déclaré lundi que le film ne serait pas diffusé au Maroc. Ce ministre, c'est un ministre du gouvernement du PJD, du parti du PJD, qui est un gouvernement islamiste modéré qui déjà s'en était pris à un des précédents films de Nabil Ayouch, Une minute au soleil, c'était en 2003. Mais alors, ce qui est plus important, c'est que quelques heures plus tard, là, c'est le centre cinématographique marocain, donc l'entité officielle, qui annonce que même s'il n'a pas encore reçu la demande de visa d'exploitation, comme normalement on le fait quelques semaines avant le début du film, eh bien il a vu le film au festival et ne lui accorde pas, avant même qu'on lui en ait demandé, le visa d'exploitation, une annonce faite sous la pression, comme l'explique Ruth Gros-Richard, elle est spécialiste du monde arabe, professeure à Sciences Po, elle a écrit plusieurs tribunes sur le sujet.
À la limite, ce qui est frappant quand on va sur les sites, sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup des intervenants en arabe disent « mais on n'avait pas besoin, on sait tout ça, d'une certaine façon, on sait ». Alors là-dessus, évidemment, peut venir, et c'est le cas, je pense, s'agréger un discours moralisateur de certains courants, puisqu'en réalité, un des premiers à être intervenu sur cette question, c'est un cheikh assez connu, le cheikh Al-Qabbaj, proche d'un autre cheikh qui avait autorisé, fait une fatwa autorisant le mariage des filles âgées de 9 ans. Et je me demande si, je crois que le ministre lui-même l'a déclaré, le ministre de la Communication, il a déclaré qu'il y avait une telle pression que pour des raisons de, en gros, presque de sécurité publique, d'une certaine façon, voilà.
Voilà, et ben le film est censuré, sauf que, on l'a dit, la procédure n'est pas absolument correcte. Nabil Ayouch attend toujours de recevoir une notification officielle que son film n'a pas de visa d'exploitation, puisque là, pour le moment, il n'a reçu, il n'a découvert que le communiqué de presse en même temps que tout le monde. Quand ce sera le cas, il entend engager des recours.
Et bien tout de suite, on passe aux brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec le prix SNCF du Polar qui a été attribué grâce au vote de 30 000 lecteurs dans la catégorie roman à l'américain Craig Johnson pour son roman En fond de poussière, paru chez l'éditeur Gallmeister. Et c'est Rouge Karma d'Eddie Simon et Pierre-Henri Gaumont chez Sarbacane qui l'a emporté dans la catégorie BD.
Un navire byzantin exceptionnel découvert au large de la mer de je sais pas trop.
De la mer noire, excusez-moi, c'est moi qui vous ai piégé, j'adore.
Comme d'habitude.
Ça, Laurent. C'est une découverte.
Et ce que vous devriez faire, c'est mettre un mot sur trois et que je les devine. Et ça serait une nouvelle émission.
Mais beaucoup plus drôle. Alors, c'est une découverte archéologique extrêmement importante puisque cette épave d'un navire byzantin est la plus grande qu'on ait jamais été trouvée. Elle a été localisée par des plongeurs à 82 mètres de profondeur et elle est remplie de dizaines d'amphores qui datent du Xe siècle. La Russie entend désormais tout mettre en œuvre pour protéger l'épave des pilleurs.
Soyez rassurés, là j'ai tous les mots. Le groupe belge Rossel, intéressé par le quotidien gratuit 20 minutes.
20 minutes a été fondé et appartient toujours au groupe de médias norvégiens Schibsted, j'espère que je dis bien, qui indique qu'il est en négociation exclusive donc avec le groupe belge Rossel pour lui céder sa part de 49,3% dans le quotidien gratuit 20 minutes. Objectif, conclure la vente d'ici octobre. Le groupe belge possède déjà le quotidien Le Soir, le groupe de presse nordiste La Voix, l'Union l'Ardennais, l'Est éclair, Libération Champagne. Je rappelle que 20 minutes emploie 200 salariés, dont 100 journalistes.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une petite histoire de statues, d'architecture, de blanc, puisque c'est l'été, on parle toujours de blanc, et surtout de mégalomanie. C'est une histoire drôle, mais pas tant que ça, puisque nous sommes dans 2015 et que ce lundi, donc lundi dernier, on a inauguré en grande pompe au Turkménistan une très belle statue, la statue de Gurbanguly Berdimuhamedov. J'ai su bien le dire une fois, mais je ne le dis pas très bien. Qui est cet homme ?
Je n'ai pas compris son nom.
C'est un ancien dentiste qui aujourd'hui dirige le Turkménistan. manifestants. Il a inauguré sa propre statue lundi. Ah, bah. Alors c'est une statue de lui en or massif. Il est sur un cheval. Et cette statue donc mesure 21 mètres de haut. Elle est recouverte de feuilles d'or de 24 carats. Alors pourquoi lui sur un cheval? Eh bien parce que c'est un homme qui a vaguement le culte de la personnalité, que par ailleurs il est fan de cheval, tellement fan qu'il a fait de cette passion une passion nationale. Il y a donc une journée du cheval en ce moment au Turkménistan qui est un jour férié. Il y a même, c'est lui-même un statut. Il est à la fois président et éleveur national du Turkménistan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il veut faire un peu mieux avec cette statue que son prédécesseur.
Marie-Ève Malouine est sidérée.
Lui-même, il avait, le prédécesseur, en fait, avait déjà, lui, une statue. Hein, l'ancien dictateur, qui elle aussi était en or, mais alors il n'était pas à cheval. Elle tournait, en fait, cette statue, et elle tournait pour suivre le soleil. Ça, c'est la statue du prédécesseur. Par ailleurs, donc, cette statue est un peu le centre névralgique de la nouvelle capitale du Turkménistan, capitale blanc et or. On apprend par la même occasion, dès mardi, qu'il sera désormais interdit d'acheter des voitures noires. Quand on voudra conduire dans cette capitale, il faudra qu'elle soit de blanche à couleur claire. C'est tout un programme, c'est une certaine idée de la beauté.
À laquelle je souscris totalement. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités? Marie-Ève Malouine, Hubert Huerta, Cédric Mathieu.
Black is... Non, white is a new black, c'est ça?
Mais ça doit être exactement ça.
Black and gold.
Hubert Huertas?
Bah écoutez, un mégalomanie au Turkménistan, ordre moral au Maroc, on est dans la continuité de l'histoire humaine, malheureusement. Hein. On va en entendre parler jusqu'à quand?
Cédric Mathieu? Non, no comment. On commence tout de suite.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Le plateau sera média et politique ce soir dans le cadre de cette journée spéciale sur France Culture. Politique, un changement d'air. Avec nous, Marie-Ève Malouine, vous êtes la future présidente de la chaîne parlementaire LCP. Après quasiment 30 ans de carrière comme journaliste politique à Radio France, dont 11 ans comme chef du service politique à France Info, que vous quittez tout juste pour prendre vos fonctions le 8 juin prochain à la tête de LCP. Puis je rappelle que vous avez signé bon nombre de livres, donc 5 livres consacrés à des hommes politiques, Chirac, François Hollande, Lionel Jospin, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, et une BD en 2 tomes sur François Hollande, moi président. À vos côtés, Hubert Huertas, un de vos collègues, journaliste à Mediapart depuis plus d'un an...
Un an et demi.
Après là aussi 30 ans de carrière à Radio France, dont 7 ans à la tête du service politique de France Culture. Et vous venez de publier l'effet BFM aux éditions UPPR. Et puis vous, Cédric Mathieu, journaliste à Libération, chef de la rubrique Désintox depuis 2008, dans laquelle vous démontez avec les 4 journalistes de votre équipe une phrase, un propos, des chiffres qui vous paraissent fausses. C'est ce qu'on appelle le fact-checking. Cette rubrique, Cédric Mathieu, je sais que vous avez eu du mal à la mettre en place au départ. Enfin, d'abord, elle avait été testée sur le site internet de Libération avant d'intégrer les pages du journal. Qu'est-ce qui dérangeait vos collègues, notamment des pages politiques, dans cette manière d'aborder l'actualité qui était très nouvelle en France en 2008?
C'est vrai que ça a eu du mal à passer en interne et que c'est le service politique de Libération à l'époque n'était pas du tout chaud pour défendre cette rubrique et pour l'installer. C'est même fait contre le service politique. Et pour le dire en substance, ils considéraient que c'était une approche assez poujadiste de la politique. Voilà. Que c'était une manière de nourrir le tous pourri, tous menteur. Donc aborder la politique uniquement sur cet angle, à travers ce prisme-là, c'était quelque chose qui était dénigrant. C'est une façon de mettre en cause a priori la parole politique, ce avec quoi j'étais évidemment absolument pas d'accord, considérant que au contraire, si on apporte à mon avis du crédit à la parole politique, c'est justement la vérifiant et en relevant les inexactitudes. Et c'est vrai que ça avait pris un peu de temps. Voilà.
Comment vous avez regardé, justement, vous, Marie-Ève Malouine, et vous, Hubert Huertas, cette arrivée donc, de cette invention qui existait déjà ailleurs, hein, dans d'autres pays, mais en France, non?
En France, ce n'était pas systématique, mais le Canard enchaîné faisait du fact-checking, Arrêt sur image faisait aussi du fact-checking. Voilà. C'est la première fois qu'il y a une rubrique qui s'est installée de façon systématique, comme ça, dans un quotidien.
Marie-Ève Malouine?
Oui, c'est une rubrique qui a surpris au départ, mais qui a été très suivie, puisque la plupart des médias le font maintenant.
C'est passé sur Le Monde ensuite, puis après dans d'autres médias, oui.
France Info aussi le fait. C'est vrai que de la part des services politiques, il y a un côté qui encourage l'idée que les hommes politiques mentent, puisqu'il y a la rubrique pour dire, voilà, ils ont menti. Et en même temps, ça peut permettre justement quand les hommes politiques savent qu'ils vont être démentis par cette rubrique et que maintenant on essaie de faire aussi en direct à la télévision pendant les émissions, ça encourage aussi à ne pas tenir ce ministère du verbe qui a été quelque chose qui en politique s'est largement développé où il suffisait de dire pour donner le sentiment de faire.
Hubert Huertas.
Moi j'ai toujours lu avec beaucoup d'intérêt et sans me sentir poujadiste ce genre de rubrique. J'ai pas le sentiment qu'elle soit poujadiste. Vérifier après coup ce que quelqu'un peut nous dire, je vois pas. Il n'y a pas de préjugé, il y a une sorte de post-jugé. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai problème pour, et ça va être le sujet de notre soirée peut-être, pour les politiques, les hommes et les femmes politiques. C'est que d'un côté, ils n'ont plus le droit au temps. L'information s'accélère. Ce que j'ai appelé l'effet BFM, mais en fait c'est pas pour mettre BFM. BFM est en fait emblématique.
C'est
et BFM est pris l'espace. Lui-même dans l'effet BFM, qui est dans une accélération qui est provoquée simplement par l'arrivée de ce média. C'était France Info qui avait commencé le Tout Info, et puis ensuite le développement à travers la télévision a donné une accélération énorme. Donc cette accélération fait qu'on consomme, on consomme, on consomme de l'événement, de l'événement, de l'événement, et qu'on est dans un temps sans mémoire. Et que les hommes politiques sont convoqués tout le temps, et surtout. Et donc ils n'ont pas le temps. On va pouvoir développer un peu après. Et d'un autre côté, donc, on abolit le temps, on abolit la mémoire, et puis d'un autre côté, on leur ressort maintenant une mémoire qui est quand même quelquefois très douloureuse pour eux, parce que le fact-checking va vérifier effectivement assez loin dans le temps et qu'on les met devant des contradictions. Donc d'un côté, exigence de mémoire, et de l'autre côté, exigence de tout de suite et de pas de mémoire.
En 2008, qu'est-ce qui a motivé cette rubrique ?
C'est une expérience totalement personnelle de rubricard transport au service économie de Libération.
Oui. Là, vous étiez avant,
Confronté à des
contre-vérités.
À des contre-vérités. Pour le dire précisément, c'était au moment du service minimum, qui était une loi très politique sur laquelle on entendait absolument n'importe quoi, aussi bien de la part de la gauche que de la droite. C'était une loi qui était extrêmement technique et je crois que c'est un terme que tout le monde connaît aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas 9 Français sur 10 qui sont capables d'expliquer ce qu'il y avait dans cette loi, ce que voulait dire le service minimum, le terme étant lui-même complètement impropre, donc c'était dans les transports. Ça m'avait en fait assez choqué et j'avais trouvé ça assez navrant de voir qu'un sujet qui prenait autant de place dans le débat était finalement aussi maltraité, expliqué. Et du coup, ça m'avait donné envie de faire cette rubrique, mais ça en 2004. Donc ensuite, ça, le temps que ça mature, que ça... Voilà.
Ça a pris 4 ans. C'est étrange parce que c'est aussi en 2008, Marie-Ève Malouine, que vous lancez sur France Info le premier zapping radio des déclarations politiques dans les médias. Qu'est-ce que cela venait pointer à l'époque ? Même période.
C'était une sorte de service aux auditeurs de dire il y a plein d'invités sur tous les médias le matin. À France Info, on fait la sélection des phrases, des discours qui doivent vous intéresser, qui peuvent être retenus si vous n'avez pas eu le temps de tous les entendre, parce qu'on a aussi, par rapport à ce que disait Hubert, on a un temps sans mémoire et aussi une profusion d'informations dans tous les sens et qui n'ont justement plus de sens. L'émergence d'Internet, du direct sur BFM, parce que ce que BFM TV a apporté, c'est le direct. Et on a le sentiment que parce qu'on est en direct, on a tout. Et en réalité, au contraire, comme on est en direct, on perd du contexte et on perd du sens. Et on arrive à avoir aussi ce journalisme de notaire qui prend ce que j'appelle le côté, on ressort cette mémoire, justement, les précédents enregistrements, et on dit, ah, mais il dit blanc aujourd'hui, mais avant, il disait noir, contradiction, et on s'arrête là. Alors que l'intérêt, ce serait de chercher pourquoi il y a une évolution. Et on ne permet plus aux politiques d'évoluer dans leur réflexion, parce qu'il faut avoir une opinion tout de suite, et on ne permet pas d'évoluer, de réfléchir, et d'être dans le temps de la réflexion avant d'avoir une opinion.
Cédric Mathieu.
Je crois que c'est effectivement lié au format extrêmement court, mais on aura l'occasion d'en parler. Enfin,
tout à l'heure avec
des extraits. Qui ont été...
Émilie.
En termes de méthode, Cédric Mathieu, un de vos collaborateurs, nous a expliqué qu'il s'agissait d'un travail très solitaire, très austère, peu de terrain, beaucoup de téléphone, beaucoup d'internet. Est-ce que vous avez déjà ressenti des limites à cet exercice de désintox ?
Alors c'est très solitaire, très austère et du coup un peu casse-pied, mais c'est un choix et voilà. Mais les limites, elles sont pas liées à ça. Les limites, je pense que c'est une niche et c'est un regard sur la politique qui s'ajoute aux autres et qui prend pas du tout la place du reste. On n'est pas non plus dans l'analyse. Enfin, on est frustré nous-mêmes. D'abord, on est limité par la parole du politique lui-même. C'est-à-dire qu'on regarde à l'endroit ou le regard de le politique. Il faut qu'un politique parle. Notre matière première, c'est la déclaration de l'homme politique. Et nous, on fait de la vérification systématique. Après, on est sur les faits. Et quand on est sur les faits, on n'est pas forcément sur le débat d'idées non plus. Et donc, se limiter uniquement au fact-checking, c'est une façon de rendre assez aride, à mon avis, la politique. Et c'est très bien qu'il y ait plein d'autres choses à côté. Donc, la limite, elle est là. Pour moi, c'est un appoint. C'est quelque chose qui peut permettre au débat politique de se faire sur des bases plus saines, factuellement, mais ça ne le remplace pas du tout.
Les détracteurs, parce qu'il y en a par rapport à cette rubrique, ont souvent accusé votre démarche d'être partisane, de s'attaquer plus aux mensonges présupposés d'élus de droite qu'à ceux de gauche, comme si à gauche on ne mentait pas. Comment choisissez-vous quotidiennement les phrases qui sont décortiquées dans le journal pour contrer l'idée que le fact-checking serait une arme politique plutôt que d'être un outil journalistique?
Bah, c'est vrai que nous, on s'est pas assigné une parité à la différence des décodeurs, par exemple, du Monde, qui très régulièrement font des comptes, qui font le fact-checking du Monde. Eux, ils font vraiment un état des lieux. Nous, on le fait pas. Il est possible parce qu'on a plus des sensibilités probablement de gauche à Libération, qu'on soit plus choqué par des mensonges de droite que de gauche. C'est tout à fait possible. On se connaît jamais complètement soi-même, mais on essaie de le faire de la façon la plus honnête et on tape aussi bien sur la gauche que sur la droite. Et voilà, on choisit ce qu'on choisit, c'est des éléments factuels ou des affirmations qui nous semblent souvent volontairement erronées et qui rendent incompréhensibles les enjeux.
Puis l'idée d'une parité serait complètement artificielle, hein, parce que c'est les déclarations de un tel et un tel. Et il y a des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont plus menteurs ou menteuses que les autres. Et donc, forcément, ils passent plus souvent dans la rubrique. C'est pas ce serait complètement poujadiste de dire ils sont tous menteurs. Mais il arrive que certains mentent un peu plus que les autres. Ben, ils sont un peu plus dans ces rubriques.
Et c'est aussi... la chronique évolue. Nous, à France Info, parfois, il y a un fact-checking pour dire que ce qui a été dit pouvait paraître surprenant, mais que c'était vrai.
Oui,
permet aussi de ne pas toujours être du même côté du manche.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son en rapport cette fois-ci avec l'émission, c'est vrai que Mathieu, et voici ce que vous aviez choisi.
Il y a une sorte de Saint-Empire du capitalisme qui nous vient d'Extrême-Asie avec des flux d'argent, avec du travail. Vous savez combien il y a de travailleurs forcés en Chine?
Donc, il y en a
24 millions.
L'eau de
libéralisme qui consiste à faire travailler des enfants ou des prisonniers sans salaire, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Il y a bien sûr des choses bonnes. C'est peut-être caricatural. Il y a bien sûr des choses bonnes, mais il n'est pas interdit de protéger ces écosystèmes.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
Alors c'est un débat, je crois que c'était avant-hier, entre François Calfon, donc secrétaire national du PS, et Gaspard Koenig, qui est le responsable d'un think tank libéral, donc c'était sur BFM. Je l'ai retenu d'abord parce que François Calfon dit n'importe quoi, le chiffre qu'il cite,
4 millions,
bon, donc c'est un peu plus que la totalité des travailleurs forcés dans le monde, et donc je crois que sur les estimations, c'est entre 20 et 10, entre 10 et 20 fois plus que ce qu'il y en a en Chine, mais bon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le cadre, et ça c'est un sujet dont Hubert Huertas parlera mieux que moi. C'est une émission de duel politique qui s'appelle, alors là c'est chez Rutel Kreff, le face-à-face. Il y a l'équivalent sur iTélé qui s'appelle le duel. François Calfon est un habitué de ces duels. Et pour moi, il incarne la nouvelle. C'est le politique qui devient vulgaire polémiste. C'est-à-dire que il a un rendez-vous toutes les semaines avec Geoffroy Didier de l'UMP sur iTélé. Et ils sont censés dire quelque chose d'intelligent sur tous les sujets. François Calfon, il est secrétaire national du PS à l'emploi, plutôt sur des questions sociales. Bon, là, ça l'a pas empêché de dire n'importe quoi sur un sujet qu'il est censé connaître un peu, mais il intervient sur l'immigration, sur l'asile, sur la sécurité. Et en fait, il est dans un rôle où il ne peut pas ne pas dire n'importe quoi. Alors, il peut dire des fois des choses factuellement exactes, mais c'est jamais intéressant. Et c'est une vraie dérive, pour le coup, pour moi, de la représentation du politique, enfin, de la manière dont les politiques se représentent dans les médias. C'est ces espèces d'intervenants absolument passe-partout, multimodal, tout-terrain, qui... Voilà, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'ils s'affrontent les politiques le mercredi, mais les autres jours, C'est des journalistes qui sont en débat ou des polémistes, comme on appelle. Donc, on est dans une espèce d'exercice surjoué, voilà, avec des clivages qui sont complètement artificiels. Enfin, bon, pour nous, c'est un puits à intox. Voilà, à chaque fois qu'on écoute cette émission, on sait qu'on entendra des âneries parce qu'on peut pas leur demander de tout savoir sur tout.
Marie-Ève Malouine, vous qui allez prendre la direction, qui prenez la direction de la chaîne parlementaire, j'imagine que c'est quelque chose sur laquelle vous avez réfléchi, justement,
Oui, c'est vrai. Justement, la chaîne parlementaire n'a pas les mêmes obligations commerciales que les autres chaînes. Elle est complémentaire, elle n'est pas forcément en opposition. Mais c'est ce système où, justement, le but de la chaîne parlementaire est aussi d'en sortir, de montrer qu'en politique, on peut aussi réfléchir sans trancher. Et là, ce qu'on demande dans ces débats de polémistes, c'est d'être clivant. Il faut être pour ou contre. Une loi à l'Assemblée, elle se vote avec les pour, les contre, les gagnants, les perdants. On est aussi dans une idée en politique, s'il y en a un qui gagne, l'autre perd. Et on est dans ce clivant et cette réduction du débat. Moi, j'aimerais montrer aussi qu'il y a des endroits à l'Assemblée où les députés réfléchissent, se posent des questions et interrogent des gens, mènent des auditions, ouais, des spécialistes, des experts, et n'ont pas forcément la réponse. Et on est aussi dans un monde médiatique où on veut des réponses tout de suite et des opinions tranchées. C'est ce qu'on demande aux politiques, et nous, ce qu'on veut faire à la chaîne parlementaire, c'est renforcer cette vocation d'avoir des débats de décryptage, d'explication et d'interrogation qui parfois demeurent.
Mais là, vous pointez tous la responsabilité des médias, en fait, qui demandent ça véritablement aux politiques.
C'est aussi les politiques qui le font, ce sont les médias qui leur demandent, parce que le public préfère aussi avoir un débat où il y a du spectacle et où les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. C'est un cercle vicieux, puisque chacun s'entraîne. Il n'y en a pas un qui porte plus la responsabilité, je crois. Tout le monde est dans ce cercle qui tourne et qui va de plus en plus vite. Et donc, il faut qu'il y ait des endroits où on prenne plus de temps, je pense.
Berbertas.
Prendre plus de temps et émettre un avis nuancé, c'est prendre le risque de moins intéresser, de faire moins d'audimat. Vous savez, qu'est-ce que c'est
l'audimat? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, la course va être...
Il n'y a pas de solution, je pense qu'il y aurait intérêt à ce qu'il y en ait une, parce que la dérive vers laquelle tout le monde va aller sans trop savoir si c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule, elle est un petit peu désastreuse pour le politique, parce qu'elle le réduit aux lois d'un spectacle immédiat, qui sont pour ainsi dire les lois de l'attroupement. Vous savez, quelque part, qu'est-ce que l'audimat, hein, si ce n'est qu'un gros attroupement? Vous êtes plus certain de faire un attroupement en vous boxant, et donc s'il y en a un qui est KO... Donc c'est l'idée du duel, c'est l'idée de la boxe. Et là vous allez avoir de la sueur, vous allez avoir du combat, vous allez avoir de la bataille. Si vous introduisez de la réflexion, et si au bout de ce débat vous avez des téléspectateurs qui se posent des questions plutôt que d'avoir une réponse, bon...
Vous savez, d'accord avec ça. On peut avoir éléments de réflexion qui sont présentés d'abord de façon intéressante et ensuite qui amènent les gens à se faire leur propre opinion sans qu'on leur dicte. Ce qui me choque aussi, c'est cette façon dont on amène les journalistes, les politiques, à donner du prêt-à-penser. Et j'assimile aussi, on parle de fact-checking, de fast-checking, aussi au fast-food, où on donne aux gens des hamburgers avec plein d'informations, ils ont plein d'étages, ils ont tout en même temps, et... ils ont l'estomac bien rempli, ils ont l'impression d'avoir faim, et ils reviennent pour reprendre de l'information. Et on peut aussi donner des éléments qui font que les gens font leur propre opinion sans qu'on leur dicte. Et je pense qu'il faut prendre ce risque. Ce qu'Hubert vient de dire, c'est qu'il y a une prise de risque, et certains médias peuvent prendre ce risque.
France Culture le fait.
La chaîne parlementaire le fait et continuera à le faire. Et parce que je pense sincèrement qu'il y a autre chose que le petit milieu parisien. Il y a aussi des gens qui ont envie d'avoir autre chose. Il faut prendre le risque de le faire.
Le rendez-vous extérieur.
Marie-Ève Malouine, Hubert Huerta, Cédric Mathieu, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est pas de chronique aujourd'hui du cinéma, pour autant on est bien mercredi, donc on retrouvera Jean-Marc Lalanne la semaine prochaine, mais place au questionnaire autoportrait de Manu Farine. Ce soir, c'est la suite de ces questionnaires politiques, dans l'idée d'interroger une nouvelle génération de politiques et de comprendre sur quoi ils ont construit leur engagement. Après Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, c'est au tour de Grégoire de Lastéry, 30 ans, maire UMP de Palaiseau depuis 2014, poulain de Nathalie Kosciusko-Morizet. Un questionnaire politique, Grégoire de Lastéry, Manu Farine.
premier souvenir politique.
Je devais avoir un peu moins de 10 ans. C'était en 94, c'était la bataille Chirac-Balladur. À l'époque, j'avais une conscience politique qui commençait à s'éveiller. Et je trouvais très surprenant qu'au sein du même parti, on se tape dessus très fortement, au point peut-être de rater la victoire.
L'événement ou la figure politique que vous associez à vos parents ?
Chirac. Justement, Chirac et la soirée de victoire de 95, où dans ma famille, c'était vécu comme une bonne nouvelle. Et nous, les enfants, on avait eu le droit de se coucher plus tard que d'habitude.
Premier mentor.
C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai travaillé à ses côtés à partir de 2010. Elle a un discours qui est très direct. Elle n'est pas dans la formule ou la langue de bois. Elle va au contraire au fond de ses convictions en les présentant de manière parfois brute, parfois ça déplaît. Un moment parmi d'autres, c'est en 2012, quand elle décide, alors que tout le parti fait le choix soit de se ranger derrière François Fillon ou Jean-François Copé, elle fait le choix de pas se ranger derrière l'un ou l'autre. Ce qui est, d'après les classiques des partis politiques où il faut se ranger derrière celui qui va gagner, quelque chose d'assez surprenant. Mais sa conviction profonde, c'est qu'aucun des deux ne représente ses idées. Et elle préfère ne pas se prononcer.
Un livre, un texte de littérature, de théâtre, un essai, qui peut fonctionner comme référence pour l'homme politique que vous êtes.
Je pense à deux livres. Le premier, c'est un livre qui m'a été offert pour mes 30 ans par mon conseil municipal, Les Mémoires du Général de Gaulle. Ce livre, il commence par cette phrase. Toute ma vie, j'ai eu une certaine idée de la France. Et alors, tout le monde n'a peut-être pas une certaine idée de la France. Moi, j'ai une certaine idée de Palaiseau, la ville dont je suis le maire. Je trouve que cette phrase symbolise totalement ma vision de l'engagement politique. Et un deuxième livre, Marguerite de Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien. Et on voit tout l'isolement du pouvoir.
Le jour où vous avez failli arrêter ?
Il n'est pas encore arrivé, mais j'espère qu'il arrivera bien avant ma retraite. Moi, j'ai commencé par une activité qui n'avait rien à voir avec la politique. Aujourd'hui, je fais de la politique. Peut-être que demain, et j'espère qu'après-demain, je ferai autre chose.
L'autre métier que vous auriez pu faire ?
Entrepreneur. Mais c'est pas très différent de responsable politique, je crois.
L'autre époque où vous auriez aimé faire de la politique ?
Toutes les périodes de l'histoire où se sont constituées des sociétés, où se sont constituées des nations, où se sont constituées des États. Le contrat social que les hommes décident à un moment ou à un autre de mettre en œuvre entre eux, c'est intéressant. La manière dont ils le font. Donc tous les moments où des textes fondateurs ont été écrits, c'est probablement des périodes passionnantes à vivre.
L'homme ou la femme de gauche que vous auriez pu être, ou que vous auriez presque pu être ?
Je réfléchis. Ça va me venir prochainement. J'ai beaucoup d'idées, mais c'est pas du tout. J'ai pensé à une femme perdue, mais qui est pas du tout à gauche, donc c'est embêtant. Je pense à Simone Veil. J'aurais aimé pouvoir porter ce qu'elle a porté dans les années 70. Mais c'est très éloigné de votre question, je me rends compte.
Grégoire de la Stérie, merci.
Je vous voyais sourire, Marie-Ève. Malouine.
Oui, parce qu'il y a des blancs qui sont plus parlants que des propos. Et on voit là, moi, ce qui m'intéresse dans la politique et chez les hommes politiques, c'est la sincérité. Et là, on voit que la sincérité, elle est dans ce blanc.
Il est arrivé en politique plutôt sur le tard, enfin pas si tard, hein, parce qu'il est quand même assez jeune. Vous-même, vous, tous les trois d'ailleurs, Hubert Huertas, Marie-Ève Malouine et Cédric Mathieu, vous avez d'abord commencé par des reportages de société. Vous, Marie-Ève Malouine, c'était au bureau local de Radio France à Marseille. À quel moment le champ politique s'est imposé à vous ?
Ah, moi, j'ai toujours couvert la politique.
Dès le départ. Ah,
ouais,
d'accord.
Parce que j'ai, mais avec le reste. Mais j'ai commencé avant Marseille dans les locales de Radio France. Et où j'arrivais et il fallait se mettre au courant de tous les dossiers, y compris les dossiers politiques. Et je couvrais souvent la politique parce que, ça m'intéressait. Mais je faisais de tout. Et à Marseille aussi, j'ai continué, mais la politique s'est imposée à moi à Marseille, parce qu'arrivant là-bas, au moment où Bernard Tapie arrivait, et Jean-Marie Le Pen aussi, il y avait une vie politique assez riche.
Pour Cédric Mathieu, on sait la réponse, il en a parlé tout à l'heure. Et vous, Hubert Huertas ?
Moi, je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit, pour des raisons que je...
Vous commencez au Provençal, hein, Provençal.
Ah oui, je commence au Provençal, mais j'ai grandi pendant la guerre d'Algérie. C'était quand même très très politique, la guerre d'Algérie, et je me fabriquais un petit journal, je dessinais les photos, et je faisais, donc ça m'a toujours intéressé. Et ce qui m'a toujours intéressé, dans les journaux, je vais pas à la page Faits divers, je vais pas à la page People, je vais toujours à la page politique, et je l'avoue, même la politique politicienne, j'aime.
Vous êtes vraiment irrécupérable.
Oui.
Émilie Chaudet.
Marie-Ève Malouine, vous avez été nommée présidente de la chaîne parlementaire il y a 3 semaines. Vous allez prendre vos fonctions le 8 juin, donc pour un mandat de 3 ans. Lors de votre audition de candidature devant une délégation du bureau de l'Assemblée nationale, vous avez dit « LCP ne doit plus se contenter d'être une chaîne de télévision dédiée à la politique en général ». Vous avez dit qu'elle devait devenir un média global avec des programmes qui ne disparaissent jamais, qui circulent sur Internet, qui soient débattus, discutés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ce projet implique sur le traitement des sujets politiques sur cette chaîne?
Alors ça, c'est ce que je réserve un petit peu quand je vais prendre mes fonctions, mais c'est l'idée que c'est plus simplement une chaîne de télévision où il y a un programme qui descend d'en haut et que tout le monde regarde en même temps. C'est utiliser à plein les réseaux sociaux, d'abord parce que un des objectifs que j'ai, c'est de rapprocher les jeunes de la politique, parce que ce qui m'a poussée à être candidate à la présidence de la chaîne parlementaire, c'est notamment ce qui s'est passé après les attentats, où j'ai vu des jeunes aller manifester spontanément avant la manifestation du 11 janvier. Et quand ils ont défilé, j'écoutais autour de moi, on a toujours les oreilles qui traînent, et je les entendais défendre des valeurs politiques républicaines, de liberté d'expression, de fraternité, et en même temps refuser les politiques qui étaient devant, considérant que par nature, ils voulaient rattraper ce mouvement. Et je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui va pas, il faut retrouver un lien. Et les jeunes fonctionnent beaucoup par les réseaux sociaux, et je pense que c'est une vraie révolution qu'on est en train de vivre. On n'a plus des choses qui viennent d'en haut vers le bas, mais qui s'organisent spontanément en fonction des besoins. Et on le voit sur des sites de partage pour plein de choses. Et la politique en fait partie. C'est-à-dire que les jeunes se politisent à travers leur propre réseau. Et la chaîne parlementaire, pour moi, doit aller s'investir sur ces réseaux. Et c'est pour ça qu'on va chercher dans les programmes à renforcer ce qu'elle est déjà, mais en le renforçant et en trouvant un lien avec les jeunes qui s'y sentent aussi comme étant acteurs aussi de cette chaîne.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son, mais cette fois en relation avec le thème de l'émission. Et voici ce que vous avez choisi, Marie-Ève Malouine.
Marion Maréchal-Le Pen suspend-elle sa candidature au régional en PACA?
Je ne crois pas, d'après ce que je sais, que la décision soit définitive.
Pas définitive, mais est-ce que ça sous-entend qu'elle suspend, ce qui enlèverait ce côté définitif, effectivement?
Elle veut pouvoir mener sa campagne, et je la comprends, en toute liberté, sans avoir à porter sur son épaule l'hypothèque verbale de Jean-Marie Le Pen. La question est là. Si elle peut mener campagne en toute liberté, sans avoir, lors d'un meeting sur une estrade, l'homme en rouge qui apparaît, je pense qu'elle n'a pas de raison de ne pas faire campagne. Mais la question est là.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
J'ai trouvé que c'était un son qui est dans une histoire révélatrice de l'évolution des médias, c'est-à-dire une information. Marion Maréchal Le Pen devait être candidate en région PACA. Un démenti, faux vrai, démenti, suspendu, ouais. Sans démentir. Et puis après, le démenti du démenti pour dire que finalement, elle est bien candidate. Ça fait 3 informations, ça fait 3 ouvertures sur le Front National qui sait extrêmement bien exploiter la façon dont fonctionnent les médias aujourd'hui, parce que cette petite réflexion de Gilbert Collard a fait le tour de tous les médias et tout le monde s'est emballé sur une info qui était que lui-même dément dans son propos en disant elle veut pouvoir faire campagne, donc elle est toujours candidate. Mais c'est simplement que c'est une posture pour couper plus ou moins le lien, ne pas être associée au départ de Jean-Marie Le Pen. Et ça fait un feuilleton qu'on suit et qui met le Front National au premier plan.
Un feuilleton qui est alimenté par les journalistes.
Oui, et parce que on a un système journalistique qui fait une séquence par jour, et donc une séquence chasse l'autre. Donc la séquence d'aujourd'hui chasse la séquence de la veille, et certains partis savent mieux l'exploiter que d'autres, et en tout cas s'en servent énormément. Ce que fait actuellement le Front National de Marine Le Pen à Marion Maréchal Le Pen, aux élus du Front National qui chacun, par des personnalités différentes, arrive à occuper le cœur des débats, même quand il ne parle pas.
Cédric Mathieu, un commentaire sur ça? Je crois que vous êtes d'accord, non?
Oui.
Oui, je crois que c'est ça. Hubert Huertas?
Ben, j'abonde aussi dans ce sens. Hein. C'est-à-dire que là, on a effectivement l'image de 3 événements. Parce qu'on a 3 ouvertures et alors même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui est l'œuf, qui est la poule. De notre côté, les médias avec notamment l'arrivée des télévisions, Tout Info, qui ont à résoudre un problème énorme. Parce que reprendre le journal et le faire évoluer, c'est une chose. Il arrive toutes les demi-heures. Donc ça, c'est très simple. On va prendre sa dose d'information et puis on s'en va. Mais il reste 20 minutes à combler. C'est dans ces 20 minutes, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de relances. Il y a des espaces énormes dans lesquels il y a de grandes possibilités de s'engouffrer. Et puis, il suffit d'une phrase bien faite par des gens qui savent lancer la petite phrase, et puis tout le système va se mettre en route, et puis l'homme politique qui était venu parce que ce jour-là il devait présenter tel dossier, eh ben on va pas l'interroger sur ce dossier, il va falloir qu'il réagisse
à la petite phrase.
Mais oui, c'est comme ça.
C'est pas, enfin, il y a Marie pas Malouine. Que les télévisions. Il y a aussi le système d'Internet et du clic.
Tu as raison.
C'est-à-dire qu'on fait de la titraille sur Internet, sur les réseaux sociaux, est faite pour déclencher le clic. Et nous-mêmes, ça nous arrive de cliquer et de même pas attendre que ça charge pour passer à autre chose. Mais on a cliqué et c'est ça qui est comptabilisé. Et la hiérarchie de l'info, c'est ce que je trouve très intéressant dans le travail que fait Hubert, c'est que l'évolution de l'information est d'aller chercher un clic et non pas la lecture et non pas l'achat, par exemple, d'un journal pour lire tous les articles, mais c'est de cliquer, de créer un réflexe. Et pas forcément, on mesure pas la durée d'une écoute. À la télé, on mesure la durée de l'écoute. Sur Internet, on mesure juste l'ouverture, une intention.
Cédric Mathieu, d'ailleurs, vous avez vu évoluer la façon dont vous-même, vous lisez la presse, vous travaillez pour rechercher justement vos documents.
Non, nous on écoute, on a notre travail, un travail de veille essentiellement. Après, ce qu'on remarque beaucoup, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on demande de plus en plus aux hommes politiques de réagir sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Il y a une forme de déspécialisation, je trouve, de la parole politique qui est très problématique. On entend très rarement sur une loi d'importance un député, Dieu sait s'il y en a, qui bosse sérieusement sur des sujets. On entendra toujours les mêmes responsables politiques de premier plan. Quand on leur posera des questions sur l'actualité, c'est parce que bien souvent on leur pose des questions sur les feuilletons et ils réagissent comme ça. Mais c'est pas les gens qui bossent, quoi. C'est pas les techniciens de la politique et qui font la vraie politique.
Émilie.
Hubert Huertas, dans votre livre « L'effet BFM », vous fustigez l'information en temps réel, ou plutôt la mise en scène de cette information en train de se faire, le direct qui fait du surplace en attendant l'événement. Et vous faites longuement allusion aux événements du 7 janvier et sur le traitement de l'information ce jour-là, sur les chaînes d'information continues, sur la manière dont vous et votre rédaction l'avez suivi heure par heure. Vous écrivez « Nous n'avons plus éteint notre télévision pendant 72 heures, la France non plus ». Qu'est-ce que le traitement de cette journée vous a encore révélé du métier de journaliste ?
J'ai commencé le livre en décrivant et en rappelant cette journée, parce que on est réellement là avec cet événement dans un contraste, c'est-à-dire que cet effet BFM, et encore une fois l'effet BFM, c'est l'effet dans lequel BFM est emporté comme les autres, cet effet est quelquefois insupportable, mais il faut bien admettre aussi que ces télévisions, quand il se passe un événement énorme, sont absolument nécessaires. Et on ne peut pas en décrocher parce qu'on en a besoin et parce qu'elles nous apportent de l'information. Et donc, si je rapportais cette journée et cet instant-là, c'est précisément parce que je l'ai vécu dans une rédaction qui est la rédaction de Mediapart, qui est maintenant ma rédaction, et qui est extrêmement méfiante. Avec ses télévisions. Elle est extrêmement méfiante. Eh bien, toute la rédaction s'est retrouvée autour du poste de télévision. On regardait, quand on l'a appris, l'ampleur du crime qui venait d'être commis. Je crois qu'on regardait iTélé, d'ailleurs, c'était pas BFM. Et j'ai dans l'oreille le cri d'une de mes jeunes consoeurs, une jeune femme qui doit avoir 30 ans et qui a crié. Voilà, j'écris. Bon, ça se passait à Mediapart, où théoriquement on n'a pas beaucoup de sympathie, on n'en exprime pas beaucoup, et on était tous là. Donc ces télévisions, elles ne sont pas uniquement quelque chose de détestable, elles sont presque quelque chose dont on a besoin. Mais en même temps, elles développent aussi toute une série de phénomènes qui emportent à la fois les médias, mais qui emportent toute la société, et on a en création une société qui s'adapte complètement à ce flux et qui fait semblant qui invente des événements d'ailleurs, qui fait semblant d'être là en permanence, comme si les événements se bousculaient à chaque minute, comme si sur chaque petit événement il y avait de quoi parler pendant des heures et des heures, et qui ne réagit plus que dans l'instant. Et on a maintenant des éditeurs BFM et on a des politiques BFM, et eh bien, on va avoir un public BFM. Et c'est là où les choses sont extrêmement dangereuses. Alors, vous demandiez au début de cet entretien et de cette émission. Alors, il n'y a pas de solution. Je crois que ce qu'a dit Marie-Ève tout à l'heure, en soulignant l'importance des réseaux, il est possible que l'antidote, au fond, qu'on se lasse à un moment et qu'on sache utiliser ces télés, ces médias tout info pour les moments où c'est important, et que le reste du temps,
ça se passe plutôt sur les réseaux.
Ça se passe sur les réseaux pour la recommandation que ça peut créer dans un système de communautés, de tribus, où on va se recommander des programmes qui durent dans le temps. Je pense aussi qu'il faut enrichir la diversité des médias, et c'est le projet que moi j'ai proposé pour la chaîne parlementaire, et c'est ce que nous allons essayer de faire, c'est d'assumer la différence, d'assumer une autre approche, d'assumer le fait de prendre le temps et de traiter des sujets différents, notamment à l'Assemblée. Il y a beaucoup de députés qui travaillent sur un secteur et qui n'osent pas intervenir sur les autres. Eh bien, là, on va essayer de les faire intervenir sur les secteurs qu'ils connaissent parce qu'ils ont des choses à dire.
Les députés, souvent, sont plus intéressants quand on les rencontre que quand on les interroge.
Non, vous verrez sur LCP.
Non, je
vous...
Ils sont sauvés.
Non.
Cédric Mathieu, juste une question. Est-ce que vous voyez l'avenir de votre rubrique? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, votre rubrique peut aussi déboucher sur un débat d'idées et pas simplement sur le fait de contrer l'information qui a été donnée? Est-ce que c'est une possibilité d'ouverture de cette rubrique?
La vraie difficulté dans le débat d'idées, c'est que c'est difficile d'opposer des faits. Dès lors qu'on est dans le débat économique, l'économie par exemple n'est pas une science dure, c'est difficile de dire qu'une mesure est bonne en soi. On rentre dans un débat où on a des opinions, des convictions, parfois des croyances. Et donc je pense que c'est assez difficile de faire évoluer. Nous, on est souvent sur du chiffre. Notre, je pense que la discipline, elle porte ses limites en elle-même. Après, il y a l'évolution qui, à mon avis, est dangereuse de ce type de rubrique, c'est vers l'instantanéité, là encore. C'est l'espèce de fantasme de ce qu'on appelle le fast-checking, c'est de vérifier en direct ce que France 2 a commencé à faire dans l'émission des paroles et des actes, en installant ce qu'ils appellent les vérificateurs, des gens qui sont censés faire de la vérification en direct. Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement casse-gueule. Parce que ça prend du temps. Et voilà, moi, quand j'ai imposé cette rubrique, il y avait une exigence absolue. Je disais, je veux avoir une semaine pour pouvoir faire faire mon enquête. Et c'est pas du tout un travail à chaud.
Et vous maintenez encore ce délai?
Ça dépend, mais ça, on peut mettre 15 jours. Là, ça fait 3 semaines qu'on travaille sur un chiffre sur l'asile. Voilà, on n'a toujours pas les réponses et on continue.
Émilie.
Comme à nos deux autres invités, on vous a demandé, Hubert Huertas, d'apporter un son en rapport avec le thème de l'émission. Voilà ce que vous avez choisi.
Notre déplacement ici, dans cet hôpital, auprès des médecins, de tous ceux qui sont intervenus, médecins, urgentistes, sapeurs-pompiers, policiers, c'est de comprendre, bien sûr, ce qui s'est passé, mais c'est d'abord d'apporter du soutien, de la compassion aussi, à l'égard des familles et des victimes. Les familles des victimes, les victimes elles-mêmes, veulent évidemment comprendre ce qui s'est passé, les circonstances, les motivations de cet individu, et toute la lumière doit être faite pour évidemment comprendre ce qui s'est passé.
Alors, on reconnaît la voix de Manuel Valls, le Premier ministre. Pourquoi vous l'avez choisi ce soir?
Alors, c'était le 23 janvier, le 23 décembre. 23 décembre, il était à Nantes et il venait d'y avoir dans 3 villes. C'était à Jouer-les-Tours, c'est ça, à Dijon et à Nantes. Des gens avaient foncé dans la foule. Et donc, moi, si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que Manuel Valls ne dit strictement rien et il ne sait pas quoi dire. Voilà. Mais il y va. Et il y va parce que c'est un événement. Et que je trouve que c'est symptomatique de l'évolution de la communication des politiques. Dans les années 80, la communication consistait à s'organiser pour que le message qu'on ait à faire passer ne soit pas perturbée ou passe un petit peu mieux. Alors, c'était, si vous voulez, Mitterrand, il s'est fait limer les canines parce que ça la foutait mal. Et on est passé à tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, c'est que l'effet des médias, cette accélération, fait qu'on leur demande de danser la danse de Saint-Guy tout le temps aux politiques. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de devenir maîtres de ballet. Voilà. Et c'est eux qui organisent la danse de Saint-Guy. Alors, quelle était la danse de Saint-Guy, là? Parce que ça, c'est important aussi. Alors, je vais essayer d'aller vite, vous me faites...
Ah oui, très vite, parce que là, on va devoir rendre l'antenne, Hubert.
Bon,
vous connaissez ça.
C'est qu'il y avait trois événements, il y avait des gens qui avaient foncé dans la foule, et l'idée, c'était que, en fait, ces événements étaient liés, et c'était du terrorisme. Au moment où Manuel Valls va, là-bas, il sait parfaitement, il a la procureure à côté de lui, depuis la veille, on sait que le type, il est touché. Simplement, peu importe les faits, ce qui compte, c'est le scénario. Et le scénario devait dire que Manuel Valls veillait au grain. Et ben, le grain sur lequel il veillait, c'est celui qui manquait dans la tête du type. Tout le monde le savait, c'était terrible cet événement. Mais ces trois événements n'avaient aucune relation entre elles. Et ben, on a fabriqué un événement à partir d'une réalité exacte. Ça menaçait le terrorisme, on l'a su malheureusement 10 jours plus tard, le 7 janvier.
Ils ont menti.
Ils n'ont plus le droit au temps. Et qu'on est dans un temps sans mémoire.
Et du coup, un peu casse-pied.
Il faut être pour ou contre. S'il y en a un qui gagne, l'autre perd.
Mais ça, c'est un choix et voilà.
Merci à nos invités. Marie-Ève Malouine, vous prendrez vos fonctions le 8 juin à la présidence de la chaîne parlementaire LCP. Cédric Mathieu, on peut vous retrouver, bien sûr, dans Libération avec votre rubrique Désintox. Je signale que vous aviez signé Petit Précis des Bobards de campagne aux éditions Presse de la Cité, c'était en 2012. Hubert Huertas, on peut vous lire sur Mediapart et votre livre L'effet BFM, un effet radioactif, apparu aux éditions UPPR. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Aïssa Touendoy et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Bruno Gagnard-Fontani et Élise Le, et à la réalisation Thomas Beau.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Il n'y a pas une personne qui était contre l'islam, il n'y a pas une personne qui était contre les gens, ils avaient juste envie de se marrer. C'était des grands gosses. Qu'est-ce qu'on a dans la tête pour tuer Kabou ?
Demain, une émission prise de position avec Johan Sfar et Didier Daninx. Il est 19h54. Vous êtes sur France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.